l'écho du parquet. Musique et danse traditionnelle. L'émission qui met le feu au plancher.
Saison 3.
La se parezco a ti, se está, que te nomás de casa. ¿No ven?
Et bonjour.
Bonjour.
C'est l'écho du parquet, le retour pour la 50e émission.
Voilà, une émission que vous pouvez écouter si vous avez le bonheur et la chance d'habiter en Drôme-Ardèche, sur fréquence 7 sur 92 FM, sur Radio Méga 99.2 et sur Radio Saint-Ferréol 94.2 ou sur notre audioblog Arte Radio.
Sur internet donc. On voulait vous parler des émissions à venir avant même celle-là. On vous parlera du après celle-là, mais avant de vous parler de celle-là, on va vous parler de celle qu'il y aura après. C'est-à-dire qu'on en prépare une sur le revival trad dans le Valais suisse.
Voilà, il y en aura une sur le trad dans les musiques actuelles.
Voilà, il y en aura une sur le branle sous toutes ses formes.
D'accord, et puis
sur la presse trad aussi, voilà, on a plein de choses dans les valises,
il n'y a plus qu'à, après cette pause. Mais d'abord, quel va être le sujet de cette émission numéro 50?
Eh bien aujourd'hui, on va vous parler du groupe Le Grand Barouf, qu'on a eu la chance de rencontrer à Funambal, donc un festival lyonnais qui a eu lieu il y a peu, fin avril. Donc voilà, on les a rencontrés et on passera un petit moment en leur compagnie.
D'accord, et avant de les rencontrer, on va vous proposer une super découverte à mon avis. Écoutez ça.
Thank you.
ce que vous venez d'entendre, c'est la bourrée de Chevant du groupe Fuzz, un groupe qui se définit comme proposant du trad progressif et polyphonique ou du post-trad polyphonique.
Du post-trad, c'est la première fois qu'on entend ça.
On a eu le post-punk, on a eu le post-hardcore, le post-metal. Nous avons désormais le post-trad. Voilà. Et donc forcément, là, tout de suite, comme ça, on a envie d'écouter, surtout dans un épisode de l'Écho du Parquet qui succède à une émission spéciale Malicorne. Voilà. Que sait-on de Fuzz ? Qu'ils sont originaires de Corrèze. Que dans leur message aux organisateurs de balles, parce que c'est comme ça qu'on a eu le contact, ils se présentent ainsi. Fuzz invite à un bal vibrant, empreint des vents et des voix du massif central. Entre cordes frottées, vents, machines électroniques et chants enracinés, le groupe convoque les mélodies de moyenne montagne, des monédières aux sensi, pour offrir un bal puissant, ouvert au jeu et à la fête. Fin de citation. On sait qu'ils sont cinq, Marion, Brunel, Victor, Laure et Baptiste. On sait qu'ils font leur com sur Instagram, parce que comme ce sont des jeunes et que donc quand on est un chouïa moins jeune, on n'a pas Instagram et on ne peut pas ouvrir la page qui les présente un peu plus que je viens de le faire, et qu'on aurait dû plus précieusement conserver leur mail avec leur dossier artistique joint, on se reporte donc à leur chaîne YouTube. Et on constate, alors on a pas mal de vidéos pour les voir sur YouTube, si vous voulez essayer, un petit peu des captations en live pour voir, et on constate que dans Fuzz, il y a de la vielle à roue, du clavier et des machines, sans qu'ils soient envahissants. De l'accordéon diatonique, du violon, du chant, des percus, etc. Et puis voilà. Et là, on se dit que face à tant d'ignorance et d'incompétence du chroniqueur, le mieux pour en savoir plus est encore d'écouter un deuxième morceau de Fuzz. Il s'intitule « Y dormez-vous ».
Y dormez-vous, sommeillez-vous. La belle, y dormez-vous, sommeillez-vous. La belle, si vous dormez, réveillez-vous. Ce sont vos sœurs qui parlent à vous. Si vous dormez, réveillez-vous. Ce sont vos sœurs qui parlent à vous. Y dormez-vous, sommeillez-vous. Belle, y dormez-vous, sommeillez-vous. La belle, si vous dormez, réveillez-vous. Ce sont vos sœurs qui parlent à vous. Si vous dormez, réveillez-vous. Ce sont vos sœurs qui parlent à vous. Y dormez-vous, sommeillez-vous. La belle. Parle à vous. Si vous dormez, réveillez-vous. Ce sont vos sœurs qui parlent à vous. Y dormez-vous, sommeillez-vous, la belle. Y dormez-vous, sommeillez-vous, la belle. Si vous dormez, sommeil. Oh, je n'y dors, oh, non plus j'ai sommeil. Oh, je n'y dors, ni mal.
sommeil.
Thank you.
Vous êtes toujours dans l'écho du parquet, l'émission de rock progressif.
De trad prog, post-trad prog.
Voilà, accessoirement de trad. Donc c'était le après Fuzz, vous avez entendu la marchoise à Périne du Grand Barouf. Le Grand Barouf qui est le groupe dont nous allons parler aujourd'hui. Un groupe de la boîte de production Le Grand Barbichon, qui est une boîte, pour vous situer un peu, qui est située sur la côte atlantique et qui accueille aussi Ma Petite ou La Machine, des groupes comme ça. Dans Le Grand Barouf, ils sont quatre, on en a rencontré deux, Julien Padovani et François Robin, et on en profite pour, ils en parlent un petit peu à la fin de l'interview, on en profite pour faire la promotion de leur disque qui sortira fin juin et qu'on ne manquera pas de chroniquer ici. Certainement. Évidemment.
Donc moi je m'appelle François, je joue de la Veuse, et la Veuse c'est une cornemuse du Sud-Bretagne, du Nord-Vendée, c'est la région d'où je viens, moi je viens de la région de Challans, dans le nord-ouest de la Vendée, et donc voilà, dans le Grand Barouf je joue de cette cornemuse, et puis depuis peu de temps j'ai commencé à me mettre à la 23 pouces, à la cornemuse du Berry bourbonnais.
Ouais.
Ensuite...
Comment t'es rentré dans le trad? Qu'est-ce qui t'a fait connaître ce monde-là, à part
Moi, je joue de cet instrument-là. Donc, je suis rentré dans les musiques trad par cet instrument, on va dire. Quoique, je ne sais même pas, parce que dans ma famille, il y avait plein de gens qui s'intéressaient au balfolk dans les années 80. Moi, je suis né en 80. Et il y a des gens de ma famille qui organisaient des bals déjà à l'époque. Et puis, moi, mon père, il s'est mis à jouer de la Veuse quand j'avais 5-6 ans. Donc, il est venu avec l'instrument à la maison. Et il prenait des cours, notamment avec Thierry Bertrand. Et Thierry Bertrand, c'est, on va dire, la personne qui a vraiment remis au goût du jour cet instrument, la Veuse, parce que c'est à la fois un instrumentiste génial, un sonneur génial, et c'est lui qui fabrique les instruments, c'est un luthier. Et donc moi, ce qui fait que j'ai pu accéder tout de suite à un instrument, à pouvoir jouer, à en jouer, puis à apprendre avec ce gars-là, et jouer avec mon père aussi, qui joue toujours d'ailleurs. Donc moi je suis rentré dedans vraiment un peu comme dans la marmite, quoi. Je suis tombé dedans.
Né dedans.
Oui,
ouais.
Complètement. Ouais.
Alors que moi, pas du tout. Je suis pas du tout né dedans. Donc moi, c'est Julien et je joue de l'accordéon chromatique. Et donc moi, je suis de Poitiers, originaire de Bessines, donc vraiment dans le Marais, quoi, dans le Marais Poitevin. Et moi, j'ai découvert ces musiques-là début des années 2000. Moi, je jouais beaucoup de musique improvisée, musique progressive. Des groupes de rock, des groupes de... Puis j'ai rencontré ces musiques-là, enfin, c'est des musiciens de mon coin, début des années 2000. Et donc là, je me suis pris quand même une petite gifle dans mon petit visage, où je me suis dit que là, il y avait des choses à aller chercher, quoi, à creuser. Et puis voilà. Et donc les autres musiciens du Grand Barouf, il y a Maxime d'Ancre, qui lui joue de la batterie, percussion, batterie, et Greg Jolivet, qui joue de la vielle à roue, qui est originaire du Berry. Et Max, il est de Poitiers aussi, comme moi.
En fait, la Veuse, donc, c'est une cornemuse et qui est de forme très ancienne, parce que voilà, dans sa forme, la Veuse, c'est un instrument qui a peu évolué par rapport aux cornemuses qui étaient jouées dans tout l'ouest de l'Europe au Moyen-Âge. Mais elle a évolué quand même, hein. C'est pas un instrument du Moyen-Âge, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que c'est un instrument, un type de cornemuse qu'on voit sur les représentations dès le XIIIe siècle. La Veuse vient vraiment donc du Sud-Bretagne, voilà, de ces régions que j'ai dit tout à l'heure, vraiment la Loire-Atlantique en fait, et puis le Nord-Vendée, une partie de l'Anjou, pour la fin de sa tradition, parce qu'avant elle était sans doute plus étendue. Voilà, c'est une cornemuse avec un hautbois, qui est comme une bombarde en fait, très proche de la bombarde bretonne.
Qui est dans le son ?
Oui, même dans le son, dans l'organologie. La hauteur, en fait, ça correspond vraiment à ça. Sauf que là, c'est branché sur une poche, donc ça joue en continu. Et puis, il y a un bourdon d'épaule que je ne joue jamais dans le Grand Barouf. Parce que je ne mets pas les bourdons. Parce qu'il y a les bourdons de la vielle, il y a les bourdons basses d'accordéon. Donc, du coup, le bourdon de laveuse, il est très peu utilisé en live, pas du tout. Mais sur disque, très très peu.
Okay.
Ouais. Et là j'ai un. Mais voilà, c'est une cornemuse avec un seul bourdon d'épaule, quoi. Et on souffle dans cette cornemuse, parce qu'il y a des cornemuses avec des soufflets. Mais celle-là, on a un porte-vent pour souffler dans la poche. Voilà. Okay. Et puis le répertoire de laveuse, c'est deux zones principales à la fin de la tradition. C'était la Brière, donc vraiment la région de Guérande où on dansait les ronds paludiers, bals paludiers. Et le marais nord-vendéen, le marais breton, qui est le nord-ouest de la Vendée, Chalands, Saint-Jean-de-Mont, où là on dansait les maréchines, les grands danses, voilà, les branles de Noirmoutier, les ronds des dieux.
Grand Barouf, c'est un peu, enfin, c'est comme ça que je le vois, je ne sais pas comment vous le verriez, le super groupe Grand Barbichon, c'est-à-dire qui rassemble plein de musiciens qui ont d'autres projets dans la boîte du Grand Barbichon, ou c'est pas ça l'idée ? Qu'est-ce que c'est un peu la jeunesse de ce groupe Grand Barouf ?
En fait, les débuts, c'était en duo, moi avec Greg, et c'était du concert. Moi, j'étais au clavier, j'étais au Rhodes, qui est un clavier des années 60, okay. 70, et c'était plutôt du concert. Et puis après, on a arrêté quelques années.
C'était
puis...
en 2000, combien ça 2009
2008.
2008, même, ouais.
Presque. 2008-2009.
C'était le duo Le Grand Barouf, quoi.
Ouais.
Okay. Nous, on a joué à des soirées en commun. Où moi, je jouais avec une autre formation. Et puis le duo Le Grand Barouf jouait, quoi.
Ok.
Et là, c'était vraiment concert. Et puis ça s'est arrêté. Et puis après, j'ai rappelé Greg en lui proposant de monter du bal, en fait, la musique à danser. Et puis on a pensé à François. Donc on a tourné quelques années en trio.
5 ans.
Et puis pour l'enregistrement de notre premier disque, moi j'en avais marre d'avoir une estompe au pied et j'avais vraiment envie de me libérer de ça, de pouvoir jouer avec quelqu'un, enfin, en tant que bassiste sur la main gauche avec un batteur. Et donc on a pensé à Max. Donc il est venu pour ce disque-là. Mais il est venu la semaine d'avant, quoi.
Ouais. On lui a envoyé les morceaux quelques temps avant, et puis c'était en mars 2020. Et voilà, juste avant le confinement. Donc vraiment, même ça se faisait pendant. Et il est arrivé, c'était un peu la blague, quoi. C'est quoi le morceau, les gars? Et non, mais il découvrait le répertoire, tout ça. Et puis après, il nous a accompagnés sur tous les... sur les balles ensuite, quoi.
Ouais, et il s'agissait pas juste d'avoir un invité sur le disque,
non.
Finalement.
Non, non, voilà. L'idée,
c'est... l'agréger.
Ouais, alors je sais pas si c'était le but, mais en tout cas, après, la musique, elle prend tellement un autre chemin qu'après, on se voit pas revenir en arrière, parce que ça serait un peu l'idée de revenir en arrière. Alors que là, on a développé quelque chose. Et voilà, lui, il était OK. Moi, je pense que c'est vraiment un groupe qui a une identité propre et qui a une puissance, une recherche dans les arrangements. Vraiment, le fait de faire des disques, parce que là, on sort de faire un disque, ça fait avancer la musique, ça fait vraiment avancer le groupe parce qu'on crée des nouveaux répertoires pour l'occasion et surtout, on repense les arrangements, l'orchestration. Et à chaque fois, ça nous fait vraiment avancer. Moi, je pense que par rapport aux autres groupes, moi, je sais que je joue dans d'autres groupes, il n'y a rien qui sonne comme le Grand Barouf, quoi. C'est très marqué. Après, je sais pas trop comment le qualifier, mais c'est un groupe qui a une identité forte, parce que aussi les musiciens qui en font partie, ils ont des identités assez fortes.
Dans l'équipe du Grand Barbichon, je pense que le Grand Barouf est le groupe le plus rock, quoi, le plus rock progressif, le plus massif, quoi, dans ce truc-là. Mais après, il y a quand même des choses, genre La Machine, c'est beaucoup plus tranquille, quoi, tu vois, mais avec un gros son aussi. Mais Ma Petite, c'est encore autre chose. Ils sont plus pop dans les arrangements, tout ça. Mais il y a quand même un truc qui nous réunit là-dedans, quoi. Il y a une identité au sein du Grand Barbichon dans tous ces groupes-là, quand même. Et je pense qu'il y a une ouverture dans le son, puis c'est des trucs assez produits quand même. Bah, c'est quand même épais comme truc. Et voilà. Mais c'est-à-dire qu'on va ouvrir les espaces, on va produire le son, quoi. Même on a un cinquième, il y a un cinquième musicien avec nous qui est l'ingénieur du son. Et chaque groupe a un ingé son. Il est hors de question pour ces groupes de tourner sans ingé son, par exemple.
Oui, ça c'est assez propre aussi à.
Bah oui, parce qu'il y a des groupes qui tournent sans ingé son et c'est pas très très grave, en fait. C'est possible, en fait. Nous, c'est plus compliqué parce qu'il y a des, selon les morceaux, il y a des univers différents. Donc chaque morceau, il y a du suivi, chaque morceau a un écran. Ma Petite, ça, c'est la même chose, et Chiagoum aussi. Il y a des univers très différents qui sont traités différemment, tout ça.
Voilà, non, mais c'est ça, il y a du suivi, donc c'est effectivement le travail de l'ingé son, il est. Et puis finalement, c'est pas des groupes si faciles que ça, enfin je reviens sur le Grand Barouf, c'est pas si simple que ça à faire sonner. Parce que il y a des différences de niveau entre les instruments, il y a quelque chose de très puissant dans les médiums, voilà, faut savoir traiter ces instruments, donc nous on a besoin d'avoir une personne qui connaît. Qui connaît et les instruments et la musique et les arrangements. Donc voilà, c'est, on travaille toujours avec un ingénieur.
À Poitiers, comme on n'y connaît pas grand-chose, à quoi ressemble la scène trad qui a l'air, vu de loin, hyper dynamique et hyper moderne. Enfin, tu parles de gros son, enfin voilà, on vient de parler de cette esthétique qui s'ouvre un peu. À quoi elle ressemble aujourd'hui?
Elle est assez récemment dynamique, en fait, à Poitiers. Mais là, il se passe quelque chose, ouais, j'ai l'impression. Et puis, il y a encore une vague de jeunes musiciens qui arrivent. Pour s'installer à Poitiers là. Mais en fait ça a démarré un peu il y a quelques années, il y a peut-être bientôt 10 ans où au conservatoire, en fait, il y avait la classe de soufflants, les cuivres, tout ça, qui c'était des jeunes là, super ouverts, qui jouaient vraiment très très bien. Et dedans il y avait Thomas Fossard, le premier saxophoniste de Ma Petite avant qu'il soit remplacé par Paul, mais Paul aussi à la trompette faisait partie aussi de toute cette bande là. Et donc il y a une fanfare aussi qui s'appelle la Bullcrack, où on retrouve un peu tous ces gens. Et en fait, il y a eu, avec les Tradeux et ces gens-là, des croisements, donc des projets. Et du coup, ben, là-dedans, il y a des envies, des dynamiques assez fortes. Des envies, en tout cas, de monter des groupes, d'y aller, quoi. Monter des assos. Donc, là, il y a Python Sand, maintenant, qui est une asso à Poitiers qui fait plein de choses. Donc c'est chouette, hein. C'est chouette. Moi, au début des années 2000, c'était pas du tout le cas. D'accord. Beaucoup de choses qui se passaient plutôt vers Parthenay, là-bas. Là, maintenant, ça s'est un peu inversé. Là, mais à Poitiers, ouais, c'est très sympa.
On a été vraiment impacté par Morançais, la présidente de la région, Pays de Loire, qui a vraiment coupé les aides à la création, au fonctionnement aussi dans la culture, à la fois des lieux, à la fois des festivals, à la fois des de tout, ouais. Mais ça a été ça a été drastique. À un moment donné, ça a été hop, on coupe. Mais je sais que ça a fait un peu jurisprudence parce que je pense qu'il y a plein d'autres régions qui suivent dans ce mouvement-là, puisque à certains endroits on a pu le faire. Donc c'est un peu le problème, et on voit bien que les acteurs essayent de se mobiliser contre, ils essayent de réfléchir à d'autres modèles économiques, mais ça met du temps à se mettre en place. Et puis je sais pas comment on peut le voir aujourd'hui dans nos pratiques. Moi, je sais juste qu'il y a encore des aides à la création dont on peut bénéficier, nous, hein, au niveau du Grand Barouf, parce que justement on a la chance d'être accompagné par une structure, d'être structuré avec le Grand Barbichon, et qui y a des gens qui travaillent pour nous pour aller chercher des aides, justement, pour qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions, qu'on soit salarié, en fait, tout simplement, quand on cherche à faire de la musique ensemble. On a des temps comme ça de travail qu'on appelle des résidences. Les aides à la création, mine de rien, il y en a pas mal encore, mais par contre, non, la difficulté quand on monte des nouveaux projets, souvent c'est plutôt les premières exploitations et puis les dates, enfin les concerts en eux-mêmes, ouais. Où là, moi je trouve que ça se tend énormément, ouais, aujourd'hui.
C'est quoi la place de la musique trad que vous donnez dans le Grand Barouf ? Enfin, est-ce qu'il y a quand même un territoire, une musique du Poitou que vous avez envie de défendre à l'intérieur de ça ou pas du tout ? Quelle est la place restante par rapport à la création ? Enfin, voilà, la balance des deux.
Ah ben, moi je pense que d'abord c'est pas que Poitou, hein, y a un peu Bretagne, parce que moi je suis un peu dans une zone, donc moi je viens du Poitou aussi, mais du nord, vraiment du nord du Poitou, à la frontière avec la Bretagne, et donc du coup il y a toujours eu, je viens d'une zone de marche entre le Poitou et la Bretagne.
Flou, hein, parce que
ouais, alors Nantes, pour moi c'est pas flou, plus au sud, oui, mais par contre moi j'ai toujours été baigné dans ces deux cultures, donc moi j'emmène ça. Il y a aussi vraiment la culture du Berry bourbonnais, grec, donc ça c'est très fort, donc on a quand même comme ça une grande zone géographique qui est couverte. Après, dans l'organisation du groupe, moi et Greg, on est les sonneurs, on est les mélodistes, quand même un peu plus... tu vas pas me taper. Non, mais non, mais t'es mélodiste aussi. Mais on travaille encore beaucoup dans le respect des danses, de ce qu'on écoute à la fois dans les collectages desquels on s'inspire, et on est attentif à ça, à faire sonner. Par contre, on compose aussi beaucoup. Okay. Et donc, dans le Grand Barouf, il y a très peu de trad. Là, il y a deux trad dans le prochain disque, et dans une suite, quoi. Donc, ouais. C'est que des compos, mais qui peuvent vraiment faire penser, je pense, enfin, en tout cas, qui sont dans le respect, d'une certaine façon, de faire sonner à la fois. Les musiques de ces régions et puis les danses, quoi, dans l'idée des danses, quoi, de respecter les swings bien particuliers, les métriques bien particulières de ces danses, et donc On est attentif à ça, ouais.
Ouais.
Plus qu'attentif, on part de ça.
Oui.
On part vraiment des mélodies qui arrivent et de la danse. Et... En fait, la grosse difficulté, c'est que quand tu engages un son un peu lourd, un peu épais, un peu dense, mais c'est d'arriver à être fin là-dedans. Donc d'être fin dans la densité pour engager quelque chose qui s'accorde avec la danse, avec le respect de la danse. Mais par contre, sur un branle, par exemple, on peut très bien lancer ce branle assez, on va dire, tradi, quoi, un truc. Et puis, dans l'évolution du morceau, une fois que c'est lancé, on va avoir un passage complètement débridé, qui n'a rien à voir. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça nous amène autre chose. Et puis, même pour les danseurs, ça amène autre chose dans leur danse aussi. Mais la difficulté là-dedans, je pense que ma petite, c'est un peu pareil. La machine aussi, d'une certaine manière. Hein. C'est d'apporter des couleurs sans que ça pollue le propos, le propos de base, quoi.
Mmh.
Ouais. Et donc ça, c'est du boulot.
Okay.
Et de la réflexion.
T'as, par exemple, là, en studio, il y avait un branle de Noirmoutier, une suite de branle de Noirmoutier, avec un deuxième thème qui...
On avait prévu quelque chose.
Ouais, on avait prévu de l'enregistrer.
Un arrangement, quelque chose. Et en studio... On a tout pété à tel point qu'on a même changé de thème.
Ouais. Et dans une session un peu plus improvisée, en fait, ouais. On a eu besoin de repasser par là parce que ça marchait pas, en fait.
Non.
Et bah ça, faut être voilà, des fois faut pas être trop têtu.
Même nous, la rythmique derrière, moi je me souviens avoir dit à Max, on prévoit rien, on joue le truc comme si on se lançait. Et je trouve que ça
marche, s'entend, du coup.
Ça s'entend bien.
Non, on entend la prise de risque, justement. On entend c'est ça qu'on entend. On entend peut-être quelque chose qui est, enfin,
spontané.
Bah ouais, voilà, il y a quelque chose qui est vivant, ouais. Mm. Qu'on aurait peut-être moins eu sur quelque chose de plus carré.
Mm-hmm. Oui.
Très répété. Et là.
Et du coup, cet esprit-là, ça, on se rapproche, parce qu'un truc, quand on dit quelque chose qui est rock, ça veut vraiment tout et rien dire, quoi. C'est très très large. Mais moi, dans cet esprit-là, je vois bien, en tout cas, je peux l'accrocher, ce mot, quoi.
Rock,
cet esprit,
ouais.
Un peu rock, c'est-à-dire que tu y vas, quoi. Et tu envoies le truc.
On va terminer avec l'album. Alors, donc vous venez d'enregistrer, vous avez dit c'est quand même une étape de création de plus. Donc, on a un petit peu parlé de où vous voulez aller, mais peut-être que vous pouvez un peu détailler ce qu'il y a dedans et quand est-ce qu'il sort. Et puis voilà.
Je sais même plus quand il sort.
Super,
c'est en juin,
super.
Fin juin. Ouais, il sort sur les plateformes. Et puis il y aura une sortie de disque en octobre.
En fait, on va fêter notre disque et puis ma petite sort un disque aussi. On va fêter les deux disques en même temps.
Et ça sera à Poitiers, au Confort Moderne, le 16 octobre 2026. Donc c'est une grosse fête pour célébrer la sortie de ces deux disques, de ces deux groupes du Grand Barbichon. Et donc, bah, nous, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Du nouveau répertoire, du répertoire de danse. Parce qu'en fait, on était parti dans l'idée, on s'est dit, ouais, mais non, on a trop envie de faire de la musique ensemble, on va faire un double album. Ça faisait depuis 5 ans, ouais, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas enregistré,
ouais.
Ça commençait à dater, et le premier disque, et puis on s'est dit, mais on peut refaire un disque de nouveaux morceaux à danser, parce qu'on en a plein, enfin on en a refait des nouveaux, mais on a aussi envie de faire écouter un peu ces musiques-là, où est-ce qu'on les emmène, et puis de façon plus, ouais, en se disant, on profite du disque pour
sans la danse.
Voilà, sans la danse, pour sortir un peu de... Et puis, on s'est vite rendu compte qu'on n'aurait pas les moyens, pas le temps en fait, tout simplement, de faire ça, que ça coûtait cher, que ça allait être trop compliqué, que ça allait nous prendre trop de temps. Donc, on est revenu à refaire un disque, mais du coup un peu plus fourni en nouveau répertoire à danser, et puis en y allant dans les arrangements, quoi, en se disant, allez, on va ramener d'autres instruments. On a quelques invités, on a deux invités aussi. Y a un morceau qui nous sort un peu de ce qu'on fait habituellement aussi, une sorte de clin d'œil à la fin, en morceau un peu bonus. Mais sinon, ce sont des... Donc d'abord, l'album, il s'appelle Bleu Noir. C'est une composition de Julien, c'est une valse qui s'appelle Bleu Noir, et c'est le titre de l'album.
Et puis c'était le deuxième disque où vraiment avec Maxime, le batteur, on a quand même fait beaucoup de balles depuis le premier. Donc voilà, on est rentré en studio avec lui plus serein quand même.
Hein. Cette fois, il connaissait les morceaux.
Il connaissait les morceaux. Puis on a réfléchi vraiment avec lui aux arrangements. Et on a une invitée aussi, une chanteuse qui vient chanter sur une valse. Enfin, c'est une chanson de Léo Ferré
qui
peut être dansable. C'est Juliette Mainvielle.
Et il y a Erwan Amon à la flûte traversière en bois. Ouais, c'est sur une mazurka.
Je reviens sur cette frustration du disque concert, enfin du disque plus XP. Est-ce que vous jouez un peu en concert? Est-ce que vous êtes programmé dans des salles de concert? Est-ce que c'est une envie?
En fait, aujourd'hui, faire du concert,
c'est compliqué.
Ça dépend. En fait, ça dépend. C'est que nous, l'ADN un peu du groupe depuis le début, c'est de faire du bal. Après, effectivement, j'en parlais tout de suite avec Lucas Thébault en mangeant, parce que effectivement, aujourd'hui, le bal, il n'y a pas de concert avant un bal. Avant, justement, je parlais dans les années 80, moi, des gens de ma famille qui organisaient des bals, y avait un concert avant le bal. Aujourd'hui, c'est quand même pas le cas. Donc, nous, on joue dans ce... Et on a beaucoup de plaisir à le faire, donc c'est pas un problème. On n'est pas frustré, en fait.
Oui.
Au contraire, y a des contraintes, et puis elles nous plaisent aussi. Mais... peut-être un moment ça viendra de faire une musique complètement à écouter. Faut trouver un thème, faut trouver un fil à tirer, et on est capable d'aller vers ça. Mais faut que tout le monde soit dans cette énergie, puis qu'on se dise oui, là il y a quelque chose à dire, et effectivement. On a souvent évoqué, par exemple, faire du ciné-concert, ça nous plairait. Peut-être qu'un jour on invitera. Là, Juliette Mainvielle, c'était aussi un peu se dire, tiens, on va faire un morceau qui va nous déplacer un peu vers aussi une forme d'accompagnement différente. Voilà, on verra.
Après ce sujet sur le Grand Barouf, et puis après ce qui était un peu mon gros coup de cœur musical du moment en début d'émission avec Fuzz, on va finir cet épisode, 50e épisode de l'Écho du Parquet, avec ce qui était un peu notre coup de cœur musical de notre voyage de l'été dernier en Grande-Bretagne, dont on vous avait fait un compte-rendu dans une émission récente. Et il s'agit d'un groupe qui s'appelle Some Strange Harmony, un duo que nous avons pu voir à Édimbourg dans le sous-sol du bar le Royal Oak, qui est un petit bar qui compte beaucoup dans la scène folk locale. Et Kelly Nichols au chant et à l'harmonium et Sylvie Nichols au violon proposent un répertoire qu'on va qualifier de très syncrétique. Syncrétique, c'est quand on mélange plein de choses différentes.
Ouais, c'est pas le mot que j'aurais utilisé spontanément, mais c'est assez syncrétique.
Moi, voilà. Toi, t'aurais dit amphotère plutôt, mais on va dire syncrétique. Et donc parce qu'il convoque des mélodies d'inspiration très diverses, aussi bien du point de vue de la géographie que des styles musicaux, avec dans leur mixeur quand même une espèce de cohérence qui est liée aux atmosphères qui sont créées et qui ont un côté très mélancolique ou onirique, dirais-je.
Largement porté par l'harmonium.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Cette impression, elle est créée par l'harmonium, un instrument indien absolument génial, qui est une sorte de shruti plus élaborée. Voilà, la shruti, c'est cette espèce de boîte qu'on peut faire vibrer pour avoir un bourdon. Et donc, comme la shruti dans l'harmonium, on actionne un soufflet qui fait naître ce bourdon qui mélange une ou plusieurs notes. Mais en plus, avec l'autre main, on peut jouer sur un petit clavier pour un effet qui ressemble pas mal à du mellotron acoustique. Et décidément, c'est très très prog cette émission, parce que le mellotron était l'instrument emblème du prog des années 70. Voilà, pour vous faire découvrir ça, le morceau qu'on vous propose, il s'appelle The Roseburn Passage. Il est très typique de leur démarche puisqu'il associe trois mélodies d'origine très diverses. La première que vous allez entendre, c'est un thème issu du répertoire de Mirkur, un groupe de black metal danois dont on vous avait un peu parlé dans l'épisode 10 de L'écho du parquet, qui est emmené par une musicienne qui s'appelle Amalie Bunn et qui joue par exemple souvent du Nicol Harpa en acoustique aussi, en plus de sa carrière de black metal. Donc il y a un thème de Mirkur.
Ça, c'était à l'époque où on faisait une émission de métal.
Voilà, c'est ça. Et maintenant, on fait du prog. Ça a changé. Il y a une deuxième mélodie. C'est un thème qui a été composé par Jean-Sébastien Bach. Voilà. Après le black metal. Et la troisième, c'est une mélodie orientale qui est issue du répertoire turc. Vous mélangez tout ça et puis vous obtenez The Roseburn Passage tel que vous le propose le groupe Some Strange Harmony. À la prochaine.